Ce passage que Paul va dire, donc, va écrire dans Romains 15, au verset 7, c'est pas assez gros, c'est pas grave, où il dira donc « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Paul ici nous encourage à nous accueillir les uns envers les autres, les uns les autres. Et en fait, il fait un focus sur le modèle, le modèle sur lequel il s'appuie, c'est Jésus-Christ. Mort pour nos péchés, ressuscité et vivant pour toujours. Et comme Jésus est vivant, eh bien, Jésus continue encore d'interpeller, continue de frapper à la porte des cœurs pour se révéler. Autrement dit, Jésus continue encore aujourd'hui d'accueillir tous ceux et celles qui le cherchent et qui désirent le connaître et établir une relation avec Dieu. L'accueil, je dirais, donc, est une chose que l'on doit cultiver et entretenir. L'accueil n'est pas seulement une affaire d'église, mais c'est d'abord une affaire personnelle. Parce que lorsque Jésus nous a accueillis dans son amour, c'est d'abord pour nous sauver personnellement. Puis, en acceptant donc Jésus dans notre vie, il nous accueille dans cette famille de Dieu, dans son corps, en nous donnant un accès à une relation avec Dieu le Père. Et Paul, donc ici, encourage les chrétiens de Rome à s'accueillir les uns et les autres mutuellement, dans la pensée de créer une relation établie sur la personne de Christ. L'Épître aux Romains a joué un rôle important durant l'histoire de l'Église parce qu'elle aborde beaucoup de sujets, comme le salut par la foi seule, la relation entre Israël et les nations, ou encore la position du chrétien dans la société. Et le thème qui pourrait être dégagé, le thème principal de l'Épître aux Romains, ça pourrait être formulé comme ça. Tous les hommes sont pécheurs, mais ils peuvent être rendus justes aux yeux de Dieu par la foi en Christ et recevoir le salut et la vie éternelle. Alors j'aimerais peut-être d'abord, ça va être en trois points, très très simple. Premier point que je voulais aborder avec vous ce soir par rapport à cette notion d'accueil, eh bien c'est ce que j'ai appelé Paul accueilli par Christ. Hein, parce que c'est Paul qui écrit cette lettre. Et en fait, si Paul dit, écrit du moins ouvertement dans sa lettre, d'accueillez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Il a lui-même été interpellé, accueilli par Jésus-Christ, alors que ce n'était pas du tout gagné de la part de Paul quand même. Dans Actes 9, au verset 1 et 2, on nous dit, donc, on l'appelait Saul, « Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qui trouveraient homme ou femme. » Qui aurait parié sur Saul, honnêtement? Qui se douterait qu'il aurait eu un tel impact dans l'œuvre de Dieu? Pourtant, entre nous, c'était quand même la personne qu'il fallait. Il était en tout cas taillé pour ça, pour sensibiliser les chrétiens de l'époque, juifs et non-juifs. Et Paul était ce que l'on pourrait donc peut-être qualifier d'aujourd'hui d'extrémiste, radical, juif, comme témoignent ses propos dans sa lettre aux chrétiens de Philippe. « J'ai été circoncis le huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. » Donc, il savait qui il était. Saul persécutait les chrétiens parce qu'il pensait sincèrement qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais il était sincèrement dans l'erreur. Et alors qu'il était en direction donc, de cette ville de Damas, il va être accueilli non pas par les habitants, mais par une personne particulière, Jésus, qui lui réservait un accueil éblouissant. Dans Actes 9, au verset 3 à 5, il nous est dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » À la suite donc de cette révélation, Paul accueille volontiers Christ dans sa vie. Il se convertit, il choisit de suivre Jésus, ce qui va impacter sa vie d'une manière considérable. En fait, suite à cette rencontre, Paul ne sera plus jamais le même. Et je pense que c'est ce qui se produit lorsque nous acceptons d'accueillir Jésus comme maître, comme sauveur, et que nous lui donnons toute la place dans notre vie. Normalement, nous ne sommes plus comme nous étions à notre conversion. Nous avons grandi dans la foi, dans la connaissance de qui est Dieu, parce que eh bien, la vie chrétienne, c'est une marche continuelle, parsemée d'expériences sur terre, plus ou moins difficiles, et qui se poursuivra jusqu'à l'éternité, jusque dans l'éternité. L'accueil donc éblouissant de Jésus va conduire Paul à consacrer sa vie entière au service de Dieu et à la propagation de l'Évangile. Et Jésus va lui donner sa mission, annonce ma parole aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Et au travers de ces trois voyages missionnaires, Paul va fonder plusieurs églises, Éphèse, Philippe, Thessalonique, Corinthe et dans de nombreuses autres villes de la Turquie et de la Grèce actuelle. Au cours de ces voyages, il écrit des lettres pour encourager, pour exhorter les chrétiens, les églises qu'il a implantées, mais aussi des églises qu'il n'a pas forcément implantées lui-même, comme celle de Colosse. On apprend dans la Bible que c'était un certain Épaphras qui l'avait fondée. Et notamment aussi bien l'église de Rome, où il écrit justement ce texte « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». Ce n'est pas Paul qui l'a fondée, cette église. D'après certains, il semblerait qu'il y ait eu des chrétiens qui se soient convertis juste après donc, la Pentecôte. Vous vous souvenez, Saint-Esprit est descendu, Pierre va prêcher. Il y a plus de 3000 personnes qui vont être converties, baptisées. Et il semblerait qu'il y ait eu des chrétiens dedans qui sont revenus à Rome et puis qui ont fondé des églises. Toujours est-il que l'église de Rome, ou les églises, je ne sais pas, il y avait peut-être plusieurs églises, mais en tout cas, il y avait un nombre considérable de chrétiens à Rome. Et lorsque Paul écrit sa lettre aux chrétiens de Rome, eh bien, il se trouve dans la ville grecque de Corinthe. Et Paul, en fait, avait envisagé de faire un quatrième voyage missionnaire en direction de l'Espagne. Et il s'était dit, pourquoi pas en profiter de m'arrêter à Rome pour visiter les chrétiens. Il avait vraiment ce désir. Mais le problème, c'est que son projet va tomber à l'eau parce qu'il va se faire arrêter à Jérusalem et emprisonner pendant 2 ans. Donc lorsque Paul arrive enfin à Rome, parce qu'il y met les pieds, mais pas forcément dans les conditions qu'il avait prévues auparavant, il arrive en tant que prisonnier pour se faire juger. Il va y rester 2 ans dans une résidence surveillée. Ensuite, on ne sait pas réellement ce qui va lui arriver, mais la tradition rapporte qu'il aurait été exécuté sous Néron 67 après Jésus-Christ. Paul va avoir donc un impact considérable dans l'histoire de l'Église, qui lui vaudra aussi certains noms, certains surnoms, notamment Saint Paul, et j'ai vu aussi que certains l'appelaient l'apôtre de l'amour, c'est un surnom aussi qu'on a donné à l'apôtre Jean, mais aussi l'apôtre des gentils. Alors je me suis arrêté sur ces deux surnoms, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'ils témoignent d'une certaine manière de l'œuvre de transformation de Dieu dans la vie de Paul, qui s'est entièrement consacré dans sa mission que Jésus lui avait donnée. Apôtre de l'amour, apôtre des gentils. Paul est donc surnommé l'apôtre de l'amour et, bien entendu, on connaît tous ce texte, ce fabuleux texte qui nous parle de l'amour, 1 Corinthiens 13, au verset 3 à 8, où Paul écrit et il dit « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. » Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que Paul ici personnifie l'amour. Et cette personne, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que cet amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour, je dirais, doit être quelque part le fondement principal pour nous accueillir les uns les autres. Il ne s'agit pas d'un amour humain, d'un amour qui provient de notre propre personne, mais c'est un amour qui vient de Dieu, un amour inconditionnel. Et l'accueil que nous devons donc manifester les uns envers les autres, est-ce qu'il ne doit pas être quelque part patient, plein de bonté, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne soupçonne pas le mal? Et je ne suis pas en train de dire que l'on doit accueillir tout le monde n'importe comment. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, non. Mais Nous avons aussi une responsabilité lorsque nous accueillons des personnes, c'est de veiller. Dieu nous a donné une intelligence, des capacités, des dons qui nous permettent de discerner, de veiller, d'être avertis pour correctement veiller. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite soupçonner le mal chez les personnes. Mais Jésus dira quand même, méfiez-vous des prétendus prophètes, trompeurs ou fauteurs de troubles. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Paul ajoutera aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Deuxième surnom qui est donné donc à l'apôtre, c'est l'apôtre des gentils, autrement dit des non-juifs. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 6, Paul écrira « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. » Je ne sais pas si vous remarquez des fois, mais le titre là, « Je suis prisonnier de Jésus-Christ ». En lisant ça, je me suis dit « Waouh !» Il était dans un autre état de pensée. Il vivait quelque chose de vraiment très fort avec sa relation avec Jésus pour être au point de dire « Je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs ». Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà écrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Et c'est important ce qu'il dit là à la fin, Paul. Paul reste donc fidèle à sa mission qu'il a reçue de la part de Jésus. Il en est même prisonnier, les mains liées à l'ordre reçu de Christ de propager cette bonne nouvelle à tous les peuples. Les gentils, ce sont donc les non-juifs. Rien à voir avec l'adjectif gentil ou bien la gentillesse. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas dire que les autres peuples étaient plus gentils que les juifs. Mais si on a donné ce surnom d'apôtre des gentils à Paul, c'est parce qu'il s'est battu à coups d'encre, de papyrus, de mots, dans des circonstances parfois extrêmes et difficiles pour faire comprendre aux chrétiens, qu'ils soient juifs ou pas, qu'ils avaient tous part aux richesses et aux promesses du royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour Paul, s'accueillir les uns les autres, c'est s'accueillir comme Christ l'a fait pour lui, pour eux, mais pour toute l'humanité. Et Christ est l'incarnation visible et concrète de l'amour de Dieu. Jésus ne s'est pas offert en sacrifice pour racheter une élite ou un peuple en particulier, mais c'est pour toute l'humanité entière qu'il a donné sa vie, que l'on soit juif ou pas. La Bible nous dit qu'en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans le monde, on entend bien sûr toutes les nations. L'accueil que nous devons manifester, pratiquer les uns envers les autres, est un accueil qui trouve ses fondations sur et dans l'amour de Dieu, au travers de l'œuvre de la croix, ouvert à tous ceux et celles qui désirent suivre Christ. Et c'est en cela que nous manifestons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas toujours dans le spectaculaire. À l'instant T, ponctuellement, lorsque Jésus va ressusciter Lazare, ça va être vraiment quelque chose de ponctuel. Il va ressusciter un mort. Et parfois, on a cette pensée que la gloire de Dieu, ça doit être forcément quelque chose de « waouh ». Mais ici, ce que je trouve intéressant, c'est que la gloire de Dieu se manifeste aussi dans l'accueil des uns des autres. C'est-à-dire dans la durée, dans la persévérance. Et surtout dans le fruit qui en découle. Pour Paul, l'accueil est basé donc sur l'exemple de Christ. C'est parce qu'il a été lui-même accueilli par Jésus-Christ sur ce chemin de Damas. Pourtant, Paul n'avait probablement jamais rencontré Jésus au cours de son ministère terrestre. Alors personne ne se doutait qu'un Saul de Tarse puisse devenir l'apôtre Paul tel que nous connaissons aujourd'hui. Même pour les chrétiens de l'époque, je pense que ça a dû être un choc. Seul Dieu est capable de changer le mal en bien, en transformant les cœurs et les vies des personnes qui accueillent favorablement son amour et sa parole. C'est ce que Paul a expérimenté, ce que la plupart d'entre nous aussi avons vécu, un amour immense et immérité. Mais sommes-nous toujours accueillants envers les autres? Nous avons parfois, je pense, des filtres. On aime bien ça sur les réseaux sociaux, mettre des filtres pour paraître plus jeune, plus vieux, noir et blanc, enfin bref. Je pense qu'on peut mettre certains filtres qui vont venir nous limiter, quelque part limiter lorsqu'il s'agit d'accueillir des nouvelles personnes, comme le filtre de l'apparence, le filtre des croyances, du statut social, du langage, des origines. Et il existe tellement de filtres qui peuvent faire obstacle à accueillir des personnes. On arrive facilement à accueillir des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on va avoir des points communs, et de l'autre côté, avoir du mal à accueillir des personnes complètement différentes de nous. Et c'est pour ces raisons-là, d'ailleurs, que Paul va écrire aux chrétiens de Rome en leur disant: Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et c'est là où j'en viens avec mon deuxième point, l'accueil dans l'Église de Rome. Donc, dans les débuts, l'Église de Rome est composée principalement de chrétiens d'origine juive. Les membres étaient en tout cas majoritairement juifs. Mais au moment où Paul écrit cette lettre aux Romains, l'Église va subir quelques bouleversements. Claude, qui est l'empereur de l'époque, quand il voit que les juifs chrétiens et ces conversions qui augmentent, va décider de chasser tous les juifs de Rome. Et c'est ce que Luc mentionne dans le livre des Actes lorsque Paul va rencontrer, vous savez, Aquilas et Priscille à Corinthe, dans Actes chapitre 18 au verset 1 et 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, donc l'empereur, avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Donc Claude, l'empereur, chasse tous les juifs, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et du coup, l'église à Rome se vide de tous ces chrétiens qui étaient d'origine juive. Mais qui reste? Est-ce qu'il en reste des chrétiens? Eh bien, ce sont les gentils. C'est eux qui restent. Et ils ne vont pas chômer, ils vont continuer, ils vont persévérer à faire grandir l'église, etc. Et les membres ne sont donc plus des juifs, mais ce sont des gentils. Et gentil en hébreu, c'est goyim, qui signifie les nations. Et c'est donc ces goyim-là qui prennent en charge l'église, qui prennent en charge son fonctionnement, qui assistent, et puis on s'aperçoit qu'il y a une croissance importante de conversion. Et quand l'empereur Claude meurt, empoisonné par son épouse Agrippine, pour votre information, c'est Néron donc qui va lui succéder. Et c'est auprès de Néron que Paul fait appel, vous savez, lorsqu'il va être accusé par des chefs religieux juifs. Il va demander à Festus, qui est gouverneur à ce moment-là à Césarée, d'être jugé à Rome. Dans Actes 25, au verset 9 à 11, il nous est dit: Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul: Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence? Et Paul va lui dire: C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais. Et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur, donc Néron. En succédant à Claude, Néron va abolir en fait cette expulsion. Donc les Juifs, chrétiens, non chrétiens, vont pouvoir revenir à Rome. Et il s'est passé environ entre 4 et 5 ans entre l'expulsion et le retour des Juifs à Rome. Mais pendant ces temps, ces années, ça a suffi pour que, eh bien, l'Église change, pour qu'il y ait des changements qui s'opèrent dans l'Église. Et à tel point que les chrétiens juifs, eh bien, lorsqu'ils reviennent, ils ne la reconnaissent plus. Imaginez un peu ce qu'ils ont dû ressentir. Ils se sentaient comme étrangers, finalement, dans l'Église où, eh bien, ils vivaient cette communion fraternelle. Pour les Juifs, tous les peuples de la terre, tout ce qui n'était pas israélite, c'était un objet de mépris. Et même si les chrétiens juifs s'étaient convertis à l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, certains avaient encore beaucoup de mal à accepter les gentils, les païens. Parce que, eh bien, depuis leur tendre enfance, ils avaient été enseignés à les mépriser. Et les Juifs avaient tendance à être, des fois, parfois, très légalistes. Et de l'autre, les gentils avaient tendance à être un peu trop libérales. L'Église romaine, donc comme la plupart des églises de l'époque, mais je pense aussi aujourd'hui, c'était un vrai melting pot, un brassage de différentes cultures, apparences, habitudes, croyances, etc. Il y en avait pour tous les goûts. Les gentils étaient complètement loin de la culture juive, et en fait, ils se sont convertis avec leur arrière-plan culturel. On a notamment des Grecs qui se sont convertis, et dans la culture grecque, on adorait des dieux, des déesses, on faisait des choses mondaines, immorales. Comme ce qui se passait au temple d'Aphrodite à Corinthe, où se trouvaient 1000 prêtresses qui vivaient et descendaient chaque soir sur la ville pour se prostituer. Et pour un grec, c'était quelque part un peu normal de voir ça. Mais à partir du moment où il se convertit, les choses ne sont plus pareilles. Il devait plonger ses regards dans les Écritures, et à cette époque, ce n'était pas la Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament comme on l'a aujourd'hui, mais c'était la Torah, autrement dit les 5 premiers livres de la Bible, dont la loi de Moïse avec tous les commandements. Et c'était difficile pour eux de les comprendre, de voir s'il fallait les appliquer ou pas. Et les non-juifs reprochaient donc aux juifs bien d'avoir crucifié Christ, merci Pierre, et les juifs voulaient obliger les non-juifs à la circoncision. C'est donc dans ce climat tendre et vertueux que des tensions se créent au sein même de l'Église au point de créer des divisions. Leurs disputes portaient sur des questions de savoir si les chrétiens non-juifs avaient le droit de célébrer le sabbat ou encore de manger de la viande, boire du vin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais voilà, il y avait tout ça qui se passait dans l'Église. Et Paul dira donc « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, parce que Dieu l'a accueilli. » Donc il y avait vraiment des tensions qui étaient là, qui existaient et qui provoquaient des divisions. Il y avait aussi une sorte de mépris de la part des chrétiens riches à l'égard des pauvres. Des chrétiens qui étaient instruits ne s'entendaient pas forcément avec les chrétiens qui étaient ignorants, ou en tout cas dans l'apprentissage. Les chrétiens qui étaient en bonne santé, physiquement, bien, ne se mélangeaient pas forcément avec les chrétiens qui étaient malades. C'était un vrai champ de bataille, et j'imagine que les cultes devaient être très bien animés à ce moment-là. Alors, comment on fait pour vivre la communion fraternelle dans ces conditions? C'est compliqué quand même. Pourtant, ils avaient tous reçu Christ dans leur vie. Ils avaient accueilli la parole de Dieu qui avait été annoncée par les apôtres, mais ils ne parvenaient pas à s'entendre pour des raisons bien souvent peu importantes. Les chrétiens de Rome étaient quelque part en train de faire du favoritisme en rejetant ceux qui étaient différents de leurs conditions sociales, de leurs conditions physiques, intellectuelles, culturelles. C'était un phénomène finalement qu'on retrouve un peu partout dans les églises à cette époque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jacques, quand il va écrire sa lettre, il va s'adresser justement à des judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive. Et dans son chapitre 2, il va justement les reprendre. Il va leur dire « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et contre aussi un pauvre aux habits crasseux, si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds » sympa, « ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement ? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. » Donc face à tous ces problèmes qui existaient dans l'Église de Rome, Paul est obligé d'intervenir et il prendra le temps de revenir sur des passages de l'Ancien Testament pour pouvoir expliquer avec peut-être un nouvel éclairage, quelque chose de nouveau, un nouveau filtre, que la foi en Jésus, c'était la clé finalement pour résoudre leurs problèmes. Parce que le sacrifice de Jésus est pour tous ceux qui ont péché. Juifs ou pas, tous ont péché. Paul le dira, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour Paul, il était nécessaire que les Juifs et les non-Juifs se réconcilient, apprennent à s'accueillir les uns les autres, apprennent à vivre ensemble malgré les différences, malgré l'arrière-plan culturel qui était différent. Il souhaitait absolument que l'Église puisse être unie ensemble dans l'amour de Dieu. Et il dira, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Pour Paul, il y avait donc un intérêt capital à ce que les chrétiens de Rome puissent s'accueillir mutuellement les uns les autres, comme le Christ les a accueillis pour la gloire de Dieu. Et seul Jésus pouvait les accueillir pour les rendre héritiers de son royaume et des promesses de Dieu. Et ça, Paul l'avait bien compris, parce que Jésus est le modèle par excellence. Et je termine donc troisièmement avec ça. Christ, modèle parfait pour accueillir. Tout au long de son ministère, Jésus a manifesté l'accueil de Dieu, pour chacun d'une manière concrète, quitte parfois à être critiqué. Et ça ne dérangeait pas Jésus. On voit qu'il a accueilli avec compassion. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus a aussi accueilli les petits, ceux qui étaient, pas considérés du tout. Dans Marc, chapitre 10, au verset 13 à 16, il va y avoir des gens qui vont lui amener des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais tout de suite, la réaction des disciples, c'est quoi? C'est qu'ils vont les faire, qu'ils veulent les éloigner. Et lorsque Jésus voit ça, il va leur dire « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. On voit aussi dans son ministère que Jésus accueille des malades. Et il nous est dit, donc, des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets, beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus et il les guérit. Jésus aussi accueillait les pécheurs. Et on voit qu'il ne va pas hésiter à manger même avec des personnes qui étaient considérées de mauvaise vie. Il nous est dit que les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Mais cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » C'était impensable pour eux. Mais pourtant, Jésus, ça ne lui posait aucun problème. Et accueillir un pécheur ne veut pas dire que l'on est d'accord avec ce qu'il fait. Hein ? Ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'il fait. Et Jésus nous invite d'ailleurs régulièrement à faire le point sur nos vies et sur le péché. En fait, il n'y a pas de place pour l'accueil du péché, mais par contre, il y a une place pour le pécheur. Ensuite, j'ai noté aussi que lorsque Jésus va rencontrer la femme adultère, Jésus ne l'a pas rejetée. Les pharisiens vont amener cette femme devant Jésus pour le piéger et Jésus va l'accueillir telle qu'elle était. Il lui accorde donc le pardon, mais la sensibilise quand même par rapport au péché parce qu'il va dire... Moi, il va lui dire, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Ensuite, vis-à-vis de la femme samaritaine, dans Jean 4, il nous a raconté donc cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et on sait que les Samaritains et les Juifs, ils n'étaient pas copains. C'était des ennemis et pourtant, Jésus fait le choix d'aller à sa rencontre, mais il ne la rejette pas, au contraire, il l'accueille. Et en plus de ça, il va lui révéler qui il est réellement. Il va lui dire, la femme va lui dire, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et Jésus va lui dire, je le suis, moi qui te parle. Et là, à ce moment-là, c'est une révélation pour elle. Elle va repartir et en parler à tous ses compatriotes. Et enfin, j'ai noté aussi les 12 apôtres de Jésus. On peut aussi évoquer donc ces apôtres choisis par Jésus qui venaient d'horizons différents. Les 12 disciples, 12 apôtres étaient des hommes ordinaires que Dieu a utilisés de manière extraordinaire. Et parmi les 12, il y avait bien des pêcheurs, collecteurs d'impôts, révolutionnaires. Et les évangiles nous font part de leurs défauts, de leurs luttes, de leurs doutes constants, mais ils suivaient Jésus-Christ. Et après avoir été les témoins de la résurrection de Jésus et de son ascension, ils ont été transformés par le Saint-Esprit en de puissants hommes de Dieu qui vont impacter le monde. Jésus les avait accueillis avec amour Et ils ont répondu favorablement à cet accueil, même si, eh bien, entre nous, les pronostics n'étaient pas du tout favorables pour eux. Et en fait, j'ai noté que Jésus avait un regard qui ne se limitait pas à ce que les personnes étaient, mais à ce qu'elles deviendraient. Et nous, on a tendance parfois, eh bien, à mettre des personnes, vous savez, dans des cases. Et en marchant selon l'Esprit de Dieu, si nous laissons vraiment l'Esprit de Dieu renouveler nos pensées, notre intelligence, eh bien, nous pourrons les accueillir comme Christ nous a accueillis. Jésus dira « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce qui veut dire que lorsque Jésus nous accueille, ce n'est pas simplement pour une journée, pour un temps, mais c'est pour toujours, et ce jusque dans l'éternité. Alors je me suis posé cette question, comment est-ce que Jésus a-t-il été accueilli sur terre ? Pas dans un hôtel de luxe, ni même dans une famille royale, mais dans une étable qui ne sentait pas la mandarine. Dans une mangeoire qui sert plus à mettre de la nourriture pour animaux qu'un bébé. Au sein d'un couple modeste qui ne pouvait offrir que 2 tourterelles et 5 cycles d'argent pour leur premier-né, selon la loi de Moïse. Joseph et Marie étaient des êtres humains comme nous, avec des faiblesses, des luttes, des doutes. Mais ce qui les caractérisait, en plus de leur amour pour les choses de Dieu, c'était surtout leur foi et leur obéissance. Alors n'est-ce pas dans cette disposition que nous devons accueillir les choses de Dieu ? Avec foi et avec obéissance. N'est-ce pas aussi avec foi et obéissance que nous devons nous accueillir les uns et les autres ? Jésus a été accueilli dans une précarité, lui qui est pourtant le roi des rois. Certains l'ont accueilli avec foi, avec amour et obéissance, alors que d'autres l'ont complètement rejeté. Mais là où je trouve, et ça je trouve vraiment, personnellement très fort, là où l'accueil de Christ atteint son plus haut point, c'est sur le bois de la croix. Jésus dira « Tout est accompli ». Et la posture de Jésus sur la croix n'est-elle pas justement une représentation d'un accueil à bras ouverts ? Envers chacun d'entre nous et pour une humanité qui se perd dans ce monde. Jésus nous a accueillis avec empressement, sans réserve, avec joie et amour. Alors comment répondons-nous à l'accueil de Jésus ? Est-ce que son accueil ne donne-t-il pas envie aussi de nous accueillir mutuellement et d'accueillir aussi celles et ceux qui sont autour de nous malgré nos différences ? Alors je termine avec ceci. Lorsque je travaillais en fait en centre d'appel, j'ai travaillé pendant quelques années en centre d'appel, pour ceux qui le savent. D'ailleurs, j'avais travaillé avec Dorian. Et je travaillais donc pour un fournisseur d'électricité en 3 lettres. Et en fait, on nous formait, vous savez, pour réceptionner les appels. Donc on nous formait pour traiter les demandes, pour répondre aux besoins de ceux qui appellent, si c'était pour une facture, une explication, pour payer, etc., ou un problème. Mais on nous formait aussi dans la manière comment on accueillait les gens au téléphone. Et moi, si vous voulez, je n'avais pas cette notion-là. C'était la première fois que j'arrivais, que je découvrais ce métier-là. Et on nous avait expliqué pendant la formation que le sourire, ça s'entend. Un sourire, ça s'entend. Comment ça, un sourire, ça s'entend ? Et effectivement, on nous formait. Et j'ai bien vu, donc après toutes ces années, je me suis aperçu effectivement que c'était important et que ça s'entendait surtout. Alors, je ne sais pas, mais imaginez par exemple, vous recevez votre facture d'électricité, que vous apercevez, ça a pris une claque. Votre facture, elle a augmenté 1 euro de plus que l'année dernière. Et là, c'est la cata, vous n'êtes pas content, vous cherchez, vous fouillez sur les factures, vous regardez toutes les lignes. Et là, vous décidez de prendre votre téléphone fixe. Je ne sais pas si ça existe encore, mais votre smartphone. Et du coup, vous appelez votre fournisseur d'électricité et puis vous attendez 9 minutes, parce qu'il y a de l'attente, vous n'êtes pas le seul à appeler. Et au bout de ces 9 minutes, la personne vous répond. Imaginez que c'est moi. Oui, c'est pourquoi ? Accueil froid. Accueil qui ne donne pas du tout envie. Là, on est d'accord que là, l'accueil, ce n'est pas bon du tout. Par contre, si je réponds « Pas comme, bienvenue, que puis-je faire pour vous ?» Ah, là, ça donne plus envie, là. Là, on a envie d'aller un peu plus loin. Quand il y a un peu plus de sourire, de chaleur, c'est agréable, c'est complètement différent. Ça donne envie, finalement, d'y aller et de discuter. Et ce qui est plus fou encore, c'est que, eh bien, souvent, on reste marqué par la manière dont nous avons été accueillis. je ne sais pas vous, mais peu importe les endroits où on va, que ce soit au magasin, vous rentrez dans le bus, en fait, ça vous marque. Vous dites bonjour et ça ne répond pas en face. Ah, ben là, la tête de la personne, vous l'avez enregistrée. Et à chaque fois que vous allez passer, vous allez dire, ah, mais elle, là, c'est bon, j'arrête de lui dire bonjour. En fait, ça marque. Quelque part, le premier contact, ça marque. Et en fait, si je vous parle de ça, hein, c'est parce que je pense que l'accueil, ce n'est pas simplement le premier contact. Ça fait partie. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est lorsqu'on regarde le mot grec, qui est le mot proslambano, du mot accueillir, du mot accueillir. Et en fait, j'ai regardé, et on trouve cette définition-là. Prendre en addition, prendre pour soi. Bon, OK. Par contre, c'est après que c'est intéressant. Prendre comme compagnon. Prendre par la main pour amener ailleurs. Prendre ou recevoir dans sa maison avec l'idée de bonté. Permettre à quelqu'un l'accès à son cœur. Prendre en amitié et comme relation. On n'est plus dans une simple poignée de main, dans un simple sourire ou dans un simple « bienvenue à l'église ». L'accueil, selon la Bible, est une démarche qui est volontaire et intentionnelle. Ce n'est pas une démarche passive ou ponctuelle, mais c'est une démarche active et régulière. L'Église de Rome nous montre bien quelque part que nous pouvons parfois nous-mêmes mettre des barrières devant des nouvelles personnes, en leur imposant des règles que parfois nous-mêmes nous ne respectons pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois, voir une nouvelle personne qui arrive et puis tout de suite vous êtes pris d'une énergie et là vous allez la voir et des fois on voit des personnes qui vont dire « mais tu sais, tu dois prier 10 fois par jour, tu dois abandonner tes péchés, tu dois prier comme ceci, tu dois jeûner, tu dois arrêter de fumer, tu dois arrêter Netflix, tu dois arrêter ceci. » Et stop. C'est pas comme ça qu'on fait pour accueillir des personnes. En tout cas, c'est pas comme ça que Jésus a fait avec nous. Ben, je pense pas. Ce sont des conseils, ça peut être des propositions que l'on peut donner, mais en aucun cas des règles à imposer. Et je crois que si nous regardions à ce que nous étions avant notre conversion et même après, bien, je pense qu'on n'était pas si clean que ça. Hein. Pourtant, Jésus nous a accueillis tels que nous étions, avec nos bagages, parfois très lourds, remplis d'un tas de choses qui méritent d'être débarrassées, avec nos caractères souvent mauvais, avec nos habitudes pas toujours saines. Et même après notre baptême, nous n'avons pas été débarrassés de tout ce qui était mauvais en nous. Cependant, nous avons été revêtus d'une nouvelle nature qui vit en nous. C'est la personne du Saint-Esprit. La transformation du cœur, la conviction de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on ne pourra jamais demander à un inconverti de porter le fruit de l'Esprit s'il n'est pas lui-même converti. Et ce qui doit dicter donc notre manière d'accueillir, ce n'est pas notre expérience, mais c'est Christ lui-même. Et c'est ce que Paul insiste lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous devons favoriser les personnes à rencontrer Christ et non à être des obstacles. Et encore moins à leur imposer Christ de quelque manière. Vous savez, des fois, et je pense que c'est une mauvaise manière, mais on veut qu'ils se convertissent. En fait, on est quand même rempli d'une bonne volonté parce qu'on veut qu'ils découvrent l'amour de Dieu. Mais il faut laisser le temps. Ce qu'il faut, c'est simplement être là pour les accompagner, pour être à leur écoute. Alors certes, à un moment donné, on ne peut pas non plus... On n'est pas tous équipés de la même manière. Dieu nous a équipés différemment. Il y a des personnes qui vont pouvoir donc conseiller à un certain moment, pouvoir suivre. Il y a des personnes qui vont être là au début pour les accueillir de façon à les faire guider. Mais en fait, on a chacun des talents. Dieu nous a équipés de différentes manières et chacun doit participer à l'accueil. Je parle surtout des personnes nouvelles. L'essentiel est que notre accueil soit fondé sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et ouvert à quiconque souhaite rencontrer, se connecter avec Dieu. Alors, accueillons-nous les uns les autres, comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et je termine avec ça. Accueillons-nous mutuellement avec toutes nos différences pour adopter la culture du ciel. Amen. Seigneur, merci pour ce moment passé sous ton saint regard. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Et je te prie encore de venir travailler nos cœurs, de venir renouveler nos pensées, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions être vraiment ces personnes accueillantes, comme toi tu nous as accueillis, Seigneur mon Dieu, avec ton amour, sans jugement, sans préjugé, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'avoir tes regards, d'avoir ton regard, d'être vraiment pleinement rempli de ta personne. Viens encore changer ce qui doit être changé en nous, afin que tu nous façonnes, Seigneur mon Dieu, tel que tu veux, et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, encore porter ce beau témoignage, Seigneur, cette vie en abondance que tu veux encore offrir à ce monde, Seigneur mon Dieu, et à toutes les personnes qui nous entourent. Merci de nous bénir, de nous raccompagner dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, et de nous bénir chacun, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen.